Il est 7h18 minutes, confronté à une panne de train d'atterrissage. Il y a un pilote Berman qui a réalisé un exploit tout à fait exceptionnel ce matin. C'est déjà arrivé une fois, entre autres avec un Airbus A320 de JetBlue dans l'ouest des États-Unis, il y a quelques années. Un atterrissage parfait sur le train d'atterrissage arrière, pas de train d'atterrissage avant. Et il n'y avait pas eu de mal. Et cette fois-ci, il y a 89 passagers, membres d'équipage, qui se sont retrouvés dans la même situation avec un Embraer 190 qui s'est posé à Mandalay aux alentours de 9h, heure locale. C'est déjà il y a quelques heures pour nous. On avait essayé deux fois de l'atterrissage. Alors, pour ceux qui sont maniaques d'Internet et qui sont maniaques d'aviation comme moi, je vous invite à taper... Donc, Myanmar Airlines, atterrissage d'urgence, vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel la façon dont c'est arrivé. Un avion qui s'est posé, donc, sans problème. Il y a même des gens qui ont réussi à filmer l'atterrissage de l'intérieur de l'appareil. Depuis que le marijuana a été légalisé au pays l'automne dernier, il y a beaucoup de malades qui ignorent encore l'avis de leur médecin sur le cannabis médical et se rendent directement dans les succursales de la SQDC, croyant à tort y trouver ce qui va alléger leur souffrance. C'est du moins ce qu'on remarque avec désolation quelques médecins, dont le docteur Antonio Vigano, qui est directeur de recherche à Santé Cannabis. Ce qui est inquiétant surtout, c'est qu'il y a des gens qui pensent que le cannabis peut les guérir, alors qu'en réalité, ça ne fait que soulager certains effets secondaires de la médication, comme le manque d'appétit ou la nausée. Et même si le cannabis peut être prescrit par des médecins dans certaines circonstances depuis quelques années, son usage médical connaît un engouement sans précédent depuis sa légalisation complète le 17 octobre dernier. Malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui sont encore mal informés, qui misent sur une meilleure formation de ses collègues pour arriver à répondre à la demande, ce qui laisserait moins de malades s'auto-médicamenter, a-t-il mentionné. Depuis près de 3 ans, ça c'est un beau portrait, il y a une mère de famille de 7 enfants de Lévis qui navigue autour du monde à bord de son robuste voilier. Monsieur Thorne, sa femme Joanne et leurs enfants qui ont entamé une incroyable aventure à l'été 2016, sans oublier leur fidèle chien. Et depuis, les membres de l'équipage ont traversé l'océan Atlantique quelques reprises, visité de nombreux pays, ont été témoins de paysages plus extraordinaires les uns que les autres. Et d'ailleurs, sur le site du Journal de Montréal, on inscrit le lien pour le voir et je vous invite aussi à aller remarquer les superbes photos qu'on y a inscrites. Certainement que ça fera l'objet de discussions ce matin avec Valérie Beaudoin parce que Trump estime que les électeurs se fichent pas mal de ses déclarations de revenus. Il s'en est moqué d'ailleurs hier à ceux des tentatives des démocrates pour obtenir ses déclarations de revenus, affirmant que son refus de les publier ne lui avait pas nui en 2016 et que les électeurs se fichent pas mal de cette question. Il y a un influent membre démocrate de la Chambre des représentants qui a obtenu des subpoenas pour réclamer les déclarations fiscales de M. Trump pour 6 ans. Il a donné au secrétaire du Trésor, Stephen Mnuchin, et au commissaire de l'ISRS jusqu'à vendredi pour le faire. Et s'il n'obtient pas satisfaction, eh bien, il pourrait tenter de les obtenir par l'entreprise de la Cour fédérale. Et pendant ce temps-là, lui qui se moque du fait qu'il n'ait pas remis ses déclarations fiscales comme on le fait depuis déjà des décennies aux États-Unis, Donald Trump a vivement conseillé à la Chine d'arracher un accord commercial avec lui maintenant, lui promettant une situation pas mal pire si la négociation devait se poursuivre au cours de son éventuel second mandat de président des États-Unis. Il a même averti que fallait pas gager qu'il ne serait pas réélu en 2020 et que ce serait pas mal plus difficile si on n'arrivait pas justement à obtenir satisfaction pour les États-Unis dans cette négociation avec les Chinois. Les sinistrés des inondations qui devront être patients, la pluie tombée vendredi, la neige qui reste à fondre vont ralentir la décrue des eaux. Et d'ailleurs, Éric Houde est porte-parole de la sécurité civile, le secteur de la rivière des Outaouais qui va connaître une hausse du niveau d'eau jusqu'à mardi prochain, a-t-il dit. Monsieur Houde, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gagnon.
C'est loin d'être rassurant, cette histoire-là.
Oui, mais le maire de Gatineau en a parlé hier au niveau des ondes. Tout le monde sont sur un pied d'alerte. Tout est installé pour faire face là, à cette légère montée qui est là. Le plus dur, c'est vraiment la patience des citoyens là, face à cette pluie-là.
Bon, c'est parce que je remarquais hier à quelques endroits dans Gatineau, entre autres, que les rues qui étaient dégagées, qui étaient maintenant asséchées, ont recommencé à avoir de l'eau. Et ça, c'est une nature à taper ses nerfs des citoyens, très certainement, là, parce que là, il faut trouver des solutions quelque part.
Les solutions, c'est la patience.
Ah,
voyez-vous,
oui.
Là,
je comprends,
la pluie qui s'en vient, puis l'eau qui arrive du nord. Après ça, il y aura ce qu'on appelle un post-mortem, là, une évaluation après les inondations pour voir diminuer les conséquences sur des crues importantes comme ça. Ça fait quand même 2 ans.
Oui.
Le gouvernement a mis en place un comité. Les municipalités vont sûrement là, s'asseoir puis regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour diminuer les conséquences de des crues aussi importantes là, sur leur population.
Bon, maintenant, avec la rivière Outaouais là, qui descend jusqu'au lac des Deux-Montagnes, est-ce que ça va affecter le lac des Deux-Montagnes? Parce que là aussi, il y a beaucoup de sinistrés qui commencent à être nerveux. J'en ai parlé à quelques-uns hier après-midi, puis ils se disaient « Oups là, s'il faut que ça remonte encore, on va être dans le trouble. »
Ben, on voit le secteur de Saint-André-d'Argenteuil, Pointe-Calumet, tout le secteur Sainte-Marthe. Mm-hmm. On voit là une certaine hausse, mais en même temps, pas de grosse quantité de pluie demain après-demain. Au niveau de la rivière des Outaouais, il y a une hausse, oui, mais on voit une certaine stabilité d'ici les prochains jours. Fait, voyez-vous, là, c'est en train de se placer. Il n'y a plus de neige beaucoup à fondre non plus. Les gestionnaires de barrage font un effort important aussi pour garder de l'eau dans le réservoir, mais ce qui va arriver, c'est que ça va baisser, mais ça va baisser tranquillement. Ça veut dire que l'eau va se retirer des rues, les dernières inondées, bien entendu, mais les premières qui ont été inondées, ben, ça va être plus long avant que les gens aient vraiment accès à leur résidence.
Bon, et pour la rivière Richelieu, qu'en est-il? Parce que l'on disait hier qu'elle était sur très haute surveillance. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Il y avait eu une poussée de vent sud. Le vent s'est calmé. On est en inondation mineure, c'est-à-dire les citoyens qui sont habitués de voir de l'eau là, sur leur terrain ou alentour de leur résidence, c'est les mêmes. Puis le vent s'est calmé, voyez-vous, là, ça c'est en train de plafonner aussi. Mais c'est pas la rivière Richelieu, si on avait 3 jours de vent sud avec de la grosse pluie, ce serait une chose, hein, mais présentement, on n'a pas ça. Fait que c'est une rivière qui réagit lentement, ça fait qu'elle va descendre lentement, elle va reprendre sa place.
Donc, on n'aura pas d'histoire malheureuse comme en 2011 là, pour le Richelieu. Là.
Non, oubliez ça. Puis la même chose, on surveillait cette semaine le lac Saint-Jean.
Mm-hmm.
Lui est en train de prendre sa place tranquillement, pas vite aussi. Il y avait le secteur de Témiscamingue, le plus à l'ouest, là,
oui.
Si on reprend le côté de la province. Mm-hmm. Eux autres, ça va être haut aussi, ça va être haut longtemps. Mais vu qu'il n'y a pas de grosse pluie d'annoncer, ça veut dire qu'on devrait gagner un système en un maximum de hauteur assez rapidement pour après ça voir une certaine descente des eaux, mais qui va être lente.
Bon, pour le Témiscamingue, bien sûr, ça fait partie d'un réseau de rivières qui sont régulées aussi, par les barrages d'Hydro-Québec. Hein?
Hydro-Québec, puis de mémoire, je pense qu'il y en a un du fédéral aussi.
Oui, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien doser le réglage des barrages là, pour que tout le monde soit satisfait, qu'on n'inonde pas en aval pour sauver l'amont. Là.
Oui, mais les gestionnaires de barrages se parlent. Ça fait mm-hmm. que normalement, pas normalement, tout le monde se parle.
Oui.
Même au niveau du lac Ontario, par Cornoir, qui envoie de l'eau sur le lac Saint-Louis.
Mm-hmm.
Dans le lac Saint-Louis, pas dessus, mais plus
oui.
dedans.
Oui.
Mais le lac Saint-Louis il est assez haut, mais on voit là un certain plafonnement aussi. Là, ça fait que mais ça va être haut longtemps. Là. Il faut que l'eau qui est présentement sur le territoire, puis tout cet eau-là s'en va dans la rivière des Outaouais, mais aussi prend la mm-hmm. section du fleuve Saint-Laurent pour s'en aller là après ça ailleurs.
Bon, parce qu'il y a le niveau des grands lacs également qui avait inquiété à un certain moment donné, puis il fallait délester aussi de l'eau. Là. Est-ce que ça s'est réglé de ce côté-là?
Ah, c'est encore une bonne hausse, mais en même temps, ils sortent de l'eau, mais c'est pas... Présentement, c'est plutôt ça a de l'impact au niveau du lac Saint-Louis, que la pointe est de l'île de Montréal. Mais okay. au niveau des conséquences, là, c'est des conséquences là, qui sont minimales. Là. On n'est pas dans les mêmes conséquences que le lac des Deux-Montagnes de l'autre côté.
Oui, effectivement, et ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Ben, Éric Houde, merci beaucoup encore une fois de vos conseils ce matin.
De rien, monsieur. Passez une bonne journée.
Merci, Éric Hould, porte-parole de la Sécurité civile. Donc, les niveaux d'eau qui sont à la hausse en Outaouais, Laurentides, il y a eu de la pluie, chaleur qui sont en cause, mais finalement, on s'en tire pas si mal pour cette fois-ci encore. Ben, dans la région de Montréal, après un ménage du printemps ou des rénovations, il y a des Montréalais qui ont décidé d'aller porter leurs débris, les résidus domestiques dangereux ou autres à l'éco-centre hier. Mais pour une période indéterminée, il y a des fermetures des centres de La Salle et Saint-Laurent qui ont cependant dû s'armer de patience pour laisser leur rebut à l'éco-centre de Côte-des-Neiges. Il faut dire que Il y avait toute une lignée hier pour aller porter ces résidus. Il y en a plusieurs à qui ça a coûté cher. Et ça amène donc à un autre article de la presse ce matin par Jean-Thomas Léveillé et Olivier Pondrian qui nous rappellent que la Nouvelle-Écosse est championne du recyclage. Il faut dire que la quantité de déchets par habitant y est la plus faible au Canada. Et le recyclage parmi les plus efficaces au pays, notamment grâce à un système de consigne qui ratisse large. Chez nous, au Québec, ben, on se demande comment améliorer ses performances en la matière. Alors, la presse qui est allée faire un petit tour en Nouvelle-Écosse et pour voir comment on faisait là-bas. Quand on s'est installé il y a 3 ans en Nouvelle-Écosse, dit une résidente là-bas, ça a pris quelques semaines, dit-on, à assimiler les subtilités de la collecte des ordures et du recyclage de la province. Ça leur même arrivé que leur sac ne soit pas ramassé par les éboueurs qui avaient apposé un papier identifiant les éléments qui n'auraient pas dû s'y retrouver. Donc, même sur place, on fait comme une espèce de tri. Alors donc, si vos sacs ne sont pas conformes, on ne les ramasse pas, puis on vous dit, ben regardez, ça va dans le recyclage, ça va dans les déchets domestiques, et vous devriez peut-être le faire de cette façon-là. Alors, après quelques semaines d'éducation, on le fait. On ratisse large également pour les consignes, que ce soit les bouteilles de vin, bouteilles de bière, les canettes, etc., etc. Alors donc, chez nous, le taux de récupération des contenants consignés, c'est de 72% pour le verre au Québec, 87% en Nouvelle-Écosse. L'aluminium, chez nous, récupéré 70%, 91% en Nouvelle-Écosse. Le carton, chez nous, on n'en récupère aucun. Parce que souvent de fois, on dit que c'est pas de bonne qualité, alors qu'on en récupère 60% en Nouvelle-Écosse. Et pour l'acier, on récupère pas grand acier ici, alors que 37% de l'acier qui est utilisé est récupéré en Nouvelle-Écosse. J'espère que ça va changer avec le ratio, avec la récupération qu'on va faire au pont Champlain. Il est 7h30 minutes.